Chapitre 9. Cela commence. Lui laissant à peine le temps d'embrasser Suan, Meréane entraîna Moiraine dans la galerie. À chaque pas, l'étreinte de la main glacée se fit plus oppressante, car enfin, la jeune acceptée n'était pas prête. Depuis qu'elle s'entraînait, elle avait réussi deux fois seulement à aller au bout de la séquence, et jamais sous une pression comparable à celle que lui avait imposée Elaïda. En conséquence, elle allait échouer et être chassée de la tour. Oui, elle était vouée à l'échec. Ces mots résonnaient dans sa tête, comme les roulements de tambour qui accompagnent un condamné à mort sur le chemin de la potence. Elle allait échouer. Alors qu'elle suivait Meréane dans un étroit escalier qui s'enfonçait dans les entrailles de la tour, une idée traversa l'esprit de Moiraine. Si elle échouait, elle pourrait encore canaliser le pouvoir, à condition d'être prudente. Lorsque les candidates recalées faisaient montre d'ostentation, la tour blanche fronçait les sourcils, et quand la tour bronchait ainsi, il fallait être folle pour la défier. Selon les sœurs, les recalés renonçaient à s'unir au Saïdar, afin de ne pas s'attirer l'ire de l'ordre. Mais comment pouvait-on renoncer à une telle extase? Aux yeux de Moiraine, c'était impossible. Et elle ne s'y résignerait jamais, quoi qu'il puisse lui arriver. La jeune femme eut une autre idée, à première vue sans rapport avec la précédente. En cas d'échec, elle serait toujours Moiraine d'Amodred, héritière d'une maison certes contestée, mais toujours très puissante. Son domaine aurait besoin de temps pour renaître de ses cendres, après les exactions commises par les Aiel. Mais le peu qui restait en bon état suffirait à lui assurer de coquets revenus. Une troisième pensée fit le lien entre les deux précédentes. C'était si évident que le raisonnement devait être là depuis le début, dans les profondeurs de sa conscience. Dans sa poche de ceinture, elle avait toujours le carnet où étaient notés des centaines de noms. Même si elle ne réussissait pas, elle pourrait continuer à chercher le garçon. Ce ne serait pas sans danger, bien entendu. La tour n'aimait sûrement pas que des extérieurs se mêlent de ses affaires, et elle serait dans cette catégorie si les choses tournaient ainsi. Des dirigeants et des têtes couronnées avaient amèrement regretté d'avoir fourré leur nez où il ne fallait pas. Que risquerait une jeune exilée, si puissante que soit sa lignée? Qu'importait? Le cas échéant, elle verrait bien.
« La tour tisse comme elle l'entend »,
murmura Moiraine, ce qui lui valut un regard perçant de Meréane. Les rituels n'avaient rien de compliqué. Raison de plus pour les respecter. Avoir oublié qu'elle devrait se taire, une fois dans les sous-sols de la tour, ne militait guère en faveur des chances de Moiraine. C'était très étrange. Elle voulait plus que tout au monde devenir une Aes Sedai, et pourtant, savoir qu'elle pourrait poursuivre la quête du garçon apaisait toutes ses angoisses liées à l'échec. Elle s'en sentait même un peu moins oppressée. Quoi qu'il arrive, dans quelques jours, elle se lancerait dans sa quête. Fasse la lumière qu'elle ait un châle sur les épaules à ce moment-là. Les couloirs creusés à même la roche de l'île, aussi larges que tous les autres dans la tour, étaient très bien éclairés par des lampes fixées à des supports de fer. Malgré tout, les intersections étaient souvent plongées dans l'obscurité, parce qu'il n'était pas possible de prévoir assez de lampes. Remarquant qu'il n'y avait pas trace de poussière sur le sol, Moiraine comprit qu'on l'avait nettoyée en vue de leur passage. Dans l'air frais et sec, aucun bruit ne faisait concurrence à l'écho des pas des deux femmes. À part les caves aménagées dans les premiers niveaux, les sous-sols n'étaient pratiquement jamais utilisés. Du coup, tout était ordinaire, et les ornements brillaient par leur absence. Des portes de bois banal s'alignaient tout au long des couloirs. Tout était fermé, et plus que probablement verrouillé. Ici, on gardait beaucoup d'objets qui n'étaient pas conçus pour toutes les perdues. Et ce qu'on y faisait ne souffrait guère de publicité. Au tout dernier niveau, Meréane s'arrêta devant une double porte aussi haute et large que celle d'une forteresse, mais au bois laqué brillant comme de l'argent. Moiraine remarqua que les deux battants n'étaient pas bardés de fer, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Meréane canalisa le pouvoir, et un flux d'air vint pousser la double porte, qui pivota en silence sur ses énormes gonds. Après avoir pris une profonde inspiration, Moiraine suivit la maîtresse des novices, dans une vaste salle au toit voûté qui illuminait une impressionnante série de lampes. Se reflétant sur les dalles de marbre blanc du sol, leur lumière était éblouissante, comparée à la pénombre relative des couloirs. Battant des paupières, Moiraine riva le regard sur l'objet qui se dressait, sous le centre exact du dôme. Il s'agissait d'un anneau ovale, étroit au sommet et à la base, et épais environ comme le bras de Moiraine sur tout le reste de sa circonférence. Haute d'au minimum 6 pieds et large de 3, l'étrange bague géante brillait sous la lumière, ses reflets changeant à chaque seconde, de l'argent à l'or en passant par l'émeraude ou le bleu au gré de ses rotations. Car ce terran gréal, un artefact remontant au mythique âge des légendes, tournait sans cesse sur lui-même. Détail plus extraordinaire, il accomplissait ses rotations dans le vide, puisqu'aucun socle ne le soutenait. Pas davantage que des fils accrochés à la voûte. Moiraine passait son épreuve à l'intérieur de la relique, et il n'était pas question qu'elle échoue. Non, pas question.
« Veuillez approcher, »
dit Méréane d'un ton solennel. Leur châle sur les épaules, les Aes Sedai déjà présentes dans la salle, une pour chaque Aja, vinrent former un cercle autour de la maîtresse des novices et de la candidate. Elaïda était du nombre. En la voyant, Moiraine crut qu'elle allait défaillir.
« Moiraine, dame Audred, tu es entrée ici dans l'ignorance. Comment en sortiras-tu ?»«
Par la lumière. Pourquoi n'avait-on pas refusé l'accès de la salle à Elaïda ?» Moiraine aurait voulu poser la question, mais elle n'avait pas le droit de parler, sauf quand il faudrait réciter sa part du rituel.
« Avec la connaissance de moi-même »
s'entendit-elle répondre, d'une voix dont l'assurance l'étonna.
« Et pourquoi as-tu été convoquée ici ?»« Pour être mise à l'épreuve. »
Afficher un grand calme était capital. Quant à l'éprouver, pour l'heure, Moiraine ne parvenait pas à chasser Elaïda de ses pensées.
« Et pourquoi veut-on te mettre à l'épreuve ?»« Afin que je sache si je suis digne. »
Les sept sœurs allaient s'efforcer de la faire échouer. Après tout, c'était le principe même de l'épreuve. Mais Elaïda serait plus acharnée que toutes les autres réunies. Comment pourrait-elle lui résister ?«
Savoir si tu es digne de quoi ?» De porter le châle. »
Sur ces mots, Moiraine entreprit de se déshabiller. Selon une antique coutume, elle devrait subir l'épreuve vêtue d'un seul manteau de lumière, la preuve qu'elle n'avait pas besoin d'une autre protection que celle-ci. Alors qu'elle débouclait sa ceinture, elle se souvint du carnet caché dans une poche de cuir. S'il était découvert. Mais reculer maintenant revenait à échouer. Posant la ceinture à ses pieds, la jeune femme s'attaqua au bouton de sa robe.
« À présent, écoute mes instructions. »
dit Méréane. Elle canalisa le pouvoir et dessina dans les airs une étoile à six branches, qui se consuma en une fraction de seconde.
Durant l'épreuve, tu verras ce signe apparaître sur le sol et ailleurs.
Moiraine sentit qu'une des sœurs canalisait le pouvoir, puis un flux vint effleurer sa nuque.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir,
murmura une voix. C'était celle de la sœur bleue Anaya. Mais cette intervention ne faisait pas partie du rituel qu'on lui avait enseigné. Qu'est-ce que ça signifiait? Moiraine continua à déboutonner calmement sa robe. Maintenant que c'était commencé, elle ne devait plus se départir de sa sérénité.
Lorsque tu verras ce signe, tu te dirigeras immédiatement vers lui d'un pas régulier, sans courir ni traîner les pieds. Lorsque tu l'auras atteint, tu pourras entrer en contact avec la source authentique. Le tissage requis devra être réalisé immédiatement, et il ne faudra pas t'éloigner du signe avant d'en avoir terminé.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir.
Murmura de nouveau Anaya.
Quand le tissage sera achevé, tu verras de nouveau le signe qui te montrera le chemin à suivre. Toujours d'un pas régulier et sans hésitation.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir.
Tu réaliseras 100 tissages dans l'ordre qui t'a été indiqué et en conservant ton calme.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir,
souffla Anaya pour la dernière fois. Moiraine sentit le tissage se déverser en elle, un peu comme un flux de guérison. À part Méréane, toutes les autres sœurs allèrent se placer autour du terrain gréal. S'agenouillant sur le sol de marbre, elles s'ouvrirent au Saïdar. Alors que l'aura du pouvoir les enveloppait, elles canalisèrent, et le jeu de couleurs de l'artefact s'accéléra, comme s'il s'agissait désormais d'un kaléidoscope attaché à la roue d'un moulin. Le tissage collectif impliquant les 5 pouvoirs, des flux d'une complexité presque aussi grande que celle de l'épreuve à venir, toutes les sœurs se concentrèrent sur leur tâche, oubliant le reste.
Non, pas toutes.
Elaïda regardait Moiraine, et ses yeux semblaient lancer des éclairs, capables de transpercer les os de son crâne. La jeune acceptée résista à l'envie de s'humidifier les lèvres. Être parfaitement sereine consistait justement à ne pas céder à ces impulsions-là. Drapée de lumière ou non, se déshabiller en public n'était pas facile. Par bonheur, le terrain gréal monopolisait l'attention de presque toutes les sœurs. Désormais, seule Méréane regardait la candidate. En quête d'une hésitation, d'une faille dans son masque de sérénité. On en était au début, et la moindre fausse note consommait l'échec. Pourtant, c'était bien d'un masque qu'il s'agissait. Rien qui aille au-delà de l'épiderme de Moiraine. À mesure qu'elle se dévêtait, la jeune femme pliait soigneusement chaque habit et le posait sur sa ceinture. La petite pile devrait fournir un camouflage suffisant. Jusqu'à la fin de l'épreuve, les sept sœurs seraient très occupées. et Meriane n'était pas du genre à aller fouiller dans les affaires d'une acceptée. De toute façon, il fallait courir le risque. Quand elle retira sa bague au serpent, tout en dernier, Moiraine en eut un pincement au cœur. Depuis qu'elle l'avait obtenu, elle portait le bijou, même quand elle se baignait. Sentant son cœur battre la chamade, elle eut soudain la certitude que Meriane l'entendait à distance. Par la lumière, et Laïda! Elle allait devoir être très vigilante. Cette femme savait comment la briser. Il convenait d'être aux aguets, prête à se défendre. Une fois dans le plus simple appareil, Moiraine resta là où elle était et attendit. Considérant la température, elle eut très vite la chair de poule. Sauter d'un pied sur l'autre l'aurait peut-être réchauffée. En tout cas, elle se serait un peu moins gelée les orteils. Mais elle devait rester parfaitement calme. Le dos bien droit, les bras le long des flancs, elle s'efforça de respirer lentement. L'incarnation même de la sérénité.
« Lumière, aide-moi. Je refuse d'échouer à cause d'Elaïda. »
Mais la main glacée lui comprimait les entrailles, lui donnant envie de hurler. Elle ne laissa rien transparaître de ses tourments. Parfois, les apparences comptaient plus que la réalité. Au cœur de l'anneau, l'air se transforma soudain en un voile blanc. Plus immaculé que la robe de la jeune femme ou que la neige en pleine campagne, ce voile paraissait pourtant absorber la lumière des lampes plus qu'il la reflétait. Du coup, l'atmosphère de la chambre s'assombrissait. Soudain, le grand anneau ovale se mit à tourner lentement sur lui-même, sans émettre le moindre son, comme si sa base ne grattait pas contre la pierre. Personne ne parla, car ce n'était pas nécessaire. Sachant ce qu'il lui restait à faire, Moiraine avança d'un pas régulier vers le terrain gréal, ni trop de hâte, ni pas assez, comme il convenait à une personne d'un calme parfait. Elle allait réussir, quoi que fasse Elaïda pour tenter de l'en empêcher. Oui, elle réussirait. Elle traversa le voile blanc, très sereine et... Mais où était-elle au nom de la lumière, et comment y était-elle arrivée? Elle avançait dans un grand couloir éclairé par des lampes, et la seule porte, tout au bout, était ouverte sur l'extérieur. C'était l'unique issue possible, car un mur lisse se dressait quelques pas derrière Moiraine. Une configuration très étrange, et qu'elle n'avait jamais vue, elle l'aurait juré sur sa vie. Mais pourquoi était-elle nue en plus de tout? Tentée de couvrir avec ses mains les parties les plus intimes de son corps, la jeune femme se retint, parce que cela n'aurait pas été en harmonie avec le calme parfait qu'elle devait manifester. Bien entendu, n'importe qui pouvait passer la porte et débouler dans le couloir. Sur un guéridon, à mi-chemin de la sortie, Moiraine avisa une robe pliée en deux. Un instant plus tôt, elle l'aurait maintenue sous la torture, le meuble et le vêtement n'étaient pas là. Pourtant, les objets n'apparaissaient pas ainsi, jaillissant de nulle part. De ça, elle en était certaine. Mobilisant toute sa volonté pour ne pas accélérer le pas, Moiraine approcha du guéridon et y découvrit une tenue complète. Des escarpins en velours noir rehaussés de broderies, un chemisier et des bas blancs, le tout en soie, et une robe vert foncé, artistiquement coupée dans un tissu satiné presque aussi léger que la soie. Descendant du cou jusqu'à hauteur du genou, voire un peu plus bas, une série de rayures rouges, vertes et blanches, longues d'environ 2 pouces, composaient un motif familier. Comment une robe aux couleurs de la maison d'Amodred s'était-elle retrouvée dans ce couloir? Quand en avait-elle porté une pour la dernière fois? Eh bien, ça devait faire une éternité. Mais c'était très étrange, car ces tenues étaient encore à la mode 1 an ou 2 auparavant. Alors, pourquoi n'en avait-elle plus mis? Sa mémoire était lacunaire, pleine de trous même. Pourtant, une fois habillée, elle se sentit un peu mieux et entreprit de fermer 1 à 1 les minuscules boutons nacrés de la robe. Heureusement qu'elle pouvait jeter un coup d'œil dans le grand miroir derrière elle, sinon ça... Le grand miroir? D'où sortait-il celui-là? Non. Au fond, mieux valait ne pas se torturer les méninges sur des questions qui ne pouvaient pas avoir de réponse. Les vêtements lui allaient comme si sa propre couturière avait pris les mesures sur elle. C'était une chance. Et quand elle fut complètement vêtue, la jeune femme eut le sentiment d'être redevenue pour de bon Dame Moiraine d'Amodred. Pour que ce soit parfait, il aurait fallu un passage chez sa coiffeuse, pour se faire confectionner un chignon d'une hauteur vertigineuse. Au fait, depuis quand porta-t-elle les cheveux défaits? Bah, quelle importance! Au Kyrienne, une poignée de personnes pouvaient donner des ordres à Moiraine d'Amodred. Sinon, tout le monde lui obéissait. Elle devait rester digne et calme? Eh bien, elle ne doutait désormais plus qu'elle réussirait. Une fois la porte franchie, la jeune femme se retrouva dans un grand jardin circulaire, entouré d'une série d'arches de briques, soutenant un balcon en colonnade. Les flèches de pierre et les dômes visibles alentour, presque tous plaqués or, laissait penser à un palais. Mais il n'y avait personne en vue, un détail étrange dans un tel lieu. Sous un ciel limpide de printemps, tout était paisible et silencieux. Le printemps? Peut-être, mais peut-être aussi l'été, par une journée un peu plus fraîche que la normale. Par la lumière, elle ne savait même pas en quelle saison on était. Cela dit, elle se souvenait de son identité. Dame Moiraine d'Amodred, élevée au palais du soleil. Et c'était amplement suffisant. Regardant autour d'elle, Moiraine repéra sur le sol une étoile à 6 branches en cuivre, enchâssée dans une des dalles de pierre. Après avoir relevé l'ourlet de sa robe, elle avança vers le signe avec toute la grâce, la dignité et le calme d'une dame de la cour. Elle n'avait pas fait 2 pas lorsque la robe se volatilisa, la laissant en chemisier. Bon sang, c'était impossible. Résolue à ne pas craquer, la jeune femme continua à marcher avec la souplesse et la grâce d'une princesse, sereine et confiante, comme il convenait. Encore 2 pas, et ce fut au tour du chemisier de disparaître. Alors que Moiraine était encore à mi-chemin de la petite étoile, ses jarretières en dentelle et ses bas partirent eux aussi en fumée. Curieusement, elle eut l'impression d'avoir subi une perte cruelle. C'était absurde, peut-être, mais avec ses accessoires, elle s'était sentie un peu couverte. Elle n'en continua pas moins à avancer d'un pas régulier. Sérénité et confiance, encore et toujours. 3 hommes déboulèrent soudain dessous une arche. Des costauds à la barbe de 3 jours en redingote crasseuse, le genre de rebut d'humanité qui passait le plus clair de leur temps à boire dans des tavernes ou des salles communes d'auberge. Bref, pas le type d'individu qu'on s'attendait à voir évoluer librement dans un palais. Moiraine s'empourpra avant même que les gaillards l'aient remarqué et commencent à la reluquer. Mais comment osait-il? Alors que la colère montait en elle, la jeune femme l'étouffa. La sérénité, une démarche régulière, ni trop lente, ni trop rapide. Elle devait se comporter ainsi. Sans savoir pourquoi, elle en avait l'absolue certitude. Un des hommes passa une main crasseuse dans ses cheveux, comme s'il voulait rectifier sa coiffure. Bien entendu, il aggrava encore les choses. Un autre tira sur sa redingote froissée. Affichant des sourires répugnants, ils avancèrent vers leur proie, comme s'ils se régalaient d'avance. Bien entendu, Moiraine n'avait pas peur d'eux. Mais elle enrageait à l'idée que ses rustres la voient dans le plus simple appareil, aussi nu qu'au jour de sa naissance. Pourtant, elle ne prit pas le risque de canaliser le pouvoir avant d'avoir atteint le signe. La colère bouillait en elle, mais elle continua son chemin avec le calme d'un cygne qui dérive sur l'onde. À l'instant où son pied se posa sur l'étoile de cuivre, elle eut envie de soupirer de soulagement, mais elle s'en empêcha. Se tournant face aux 3 malotrus, elle s'ouvrit au saïdar, puis canalisa le pouvoir, tissant l'air selon la configuration exigée. Un mur invisible de 9 pieds de hauteur se matérialisa autour des 3 hommes. Comme c'était autorisé dans le cadre de l'épreuve, elle configura le flux pour qu'il s'opacifie. Lorsqu'un des types le percuta, le piège immatériel émit un son métallique. Une étoile de cuivre brillait maintenant sur le linteau de l'arche d'où avaient déboulé les importuns. Si ce signe n'était pas là au début, sa présence était maintenant indéniable. Ne pas accélérer le pas en passant à côté de la prison d'air ne fut pas aisé, et Moiraine se félicita d'avoir assuré le maintien du flux. Beuglant comme des veaux, les prisonniers essayaient de s'évader, en se faisant la courte échelle. Ils finiraient par y arriver, ce qui n'inquiétait pas le moins du monde Moiraine. En revanche, elle n'avait aucune envie qu'il la reluque encore. À cette idée, elle sentit ses joues chauffer de nouveau. Une fois encore, ne pas accélérer le pas lui coûta un effort surhumain. Mais elle y parvint, comme elle réussit à conserver un masque d'impassibilité. Une impassibilité couleur pivoine, certes, mais rien ne le lui interdisait. Après s'être engagée sous l'arche, elle se retourna au cas où. Au nom de la lumière, où était-elle donc? Et pourquoi se promenait-elle nue, et en étant ouverte au saïdar? Mal à l'aise, Moiraine se coupa de la source. Pas de gaieté de cœur, bien entendu. Dans un jardin intérieur, elle venait de réaliser le premier des sentissages qu'on lui imposait. Ça, elle le savait, mais c'était bien tout ce qu'elle n'ignorait pas, à part qu'elle devait continuer. Par bonheur, elle avisa des vêtements posés sur le sol, à l'intérieur de l'arche. Des habits de laine épais et rugueux, avec des bas tout pelucheux, mais une tenue coupée pour elle, aurait-on dit. Même les grosses chaussures de cuir lui allaient à la perfection. Oubliant son sens de l'esthétique, elle enfila le tout. Alors qu'elle venait du jardin d'un palais, le couloir qu'elle entreprit de remonter était en pierre brute, un détail qui semblait mieux convenir à une forteresse. Des lampes tenues par des supports de fer fixés très haut sur les murs éclairaient chichement ce corridor, où la jeune femme ne vit pas une seule porte. avant d'en distinguer une tout au fond, bien entendu, puisqu'il fallait bien qu'elle sorte de là. Ce qu'elle découvrit après avoir franchi cette issue la surprit encore plus que le sinistre couloir. Elle venait d'entrer dans un hameau composé d'une dizaine de maisons aux toits de chaume et de quelques granges et étables délabrés. Un petit village abandonné, peut-être à cause d'une terrible sécheresse. Sous un soleil impitoyable, le vent soulevait des colonnes de poussière dans l'unique rue et faisait grincer des portes craquelées à demi arrachées à leurs gonds. La chaleur frappa Moiraine tel un marteau qui s'abat sur une enclume. En moins de 10 pas, elle ruissela de sueur. Sans les horribles souliers, le sol rocailleux brûlant lui aurait rôti la plante des pieds, ou aurait carbonisé ses escarpins. Un puits se dressait au milieu de ce qui devait être jadis la place communale. Sur le muret où des générations d'hommes et de femmes avaient dû grimper pour puiser de l'eau, une main inconnue avait peint une étoile à 6 branches, en rouge apparemment, mais la couleur d'origine était fanée depuis longtemps. Dès qu'elle eut posé le pied sur cette étoile, Moiraine commença à canaliser le pouvoir. Un flux d'air et de feu, puis de terre. Autour d'elle, aussi loin que portait sa vue, s'étendaient des champs arides et des arbres dénudés. Dans ce paysage désolé, rien ne bougeait. Comment avait-elle atterri ici? Quelle que soit la réponse, elle voulait partir de ce village fantôme. Soudain, Moiraine se retrouva prisonnière d'un buisson de griffes noires, les épines longues d'un pouce traversant ses habits de laine et lui blessant les joues et le cuir chevelu. La jeune femme ne perdit pas son temps à penser que ce qui lui arrivait était impossible. Sortir de là, voilà tout ce qui comptait. Toutes les blessures lui faisaient mal, si petites fussent-elles, et du sang coulait des plus grandes. Un calme parfait, la sérénité en toutes circonstances. Dans l'impossibilité de bouger la tête, Moiraine tenta d'écarter un peu les branches brunâtres qui l'emprisonnaient. Des centaines d'épines s'enfoncèrent dans sa chair, et du sang ruissela le long de ses bras. Calme et sérénité. Elle pouvait recourir à d'autres tissages que les figures imposées, mais comment se débarrasser des maudites épines? Recourir au feu était hors de question. Le buisson était sec comme de l'amadou, et si elle l'embrasait, elle brûlerait avec lui. En réfléchissant, Moiraine continua à canaliser, bien entendu. Esprit puis air. Ensuite, esprit, terre et air. Enfin, air, esprit et eau. Quelque chose bougea soudain sur une branche. Une petite silhouette perchée sur 8 pattes. Un souvenir revint à la mémoire de la jeune femme, qui en eut le souffle coupé de terreur. Au prix d'un effort surhumain, elle parvint à garder son masque d'impassibilité. Les araignées têtes de mort venaient du désert des Aïels. Elle le savait, sans pouvoir dire comment. Le nom venait de la tache grise sur le dos de la créature, qui ressemblait à un crâne humain. Une morsure pouvait rendre malade un colosse pendant des jours. 2 avaient de fortes probabilités de le tuer. Sans cesser de tisser l'inutile entrelac à base des 5 pouvoirs, dans sa situation, elle s'en serait bien passée, mais elle n'avait pas le choix, Moiraine divisa habilement les flux et projeta sur l'araignée un minuscule mais très complexe fil de feu. La créature fut carbonisée si vite que les flammes n'eurent même pas le temps de roussir la branche où elle rampait. Pour flanquer le feu au buisson, il n'y aurait pas besoin d'énormément de pouvoir, à première vue. Alors qu'elle savourait sa victoire, Moiraine repéra une autre araignée qui avançait vers elle. Un flux identique la carbonisa, puis détruisit toutes celles qui suivirent. Pas la lumière. Combien était-elle? La seule partie mobile du corps de Moiraine, ses yeux, sonda frénétiquement son environnement. Il y avait des têtes de mort partout. Et combien qu'elle ne voyait pas encore? Combien dans son dos? Combien? Calme et sérénité. Tout en réduisant en cendres les araignées, Moiraine entreprit de tisser plus vite le grand entrelac inutile qu'on lui imposait. Sur certaines branches, des volutes de fumée signalaient l'emplacement où avait brûlé une araignée plus grosse que les autres. Sans se défaire de son masque d'impassibilité, Moiraine tissa de plus en plus vite. Des dizaines d'araignées moururent et il y eut de plus en plus de fumée. À la première flamme, si petite soit-elle, le buisson brûlerait à la vitesse du vent. Plus vite, plus vite. Dès que le dernier fil fut en place dans le tissage inutile, alors que Moiraine cessa de canaliser le pouvoir, le buisson de griffes noires se volatilisa. Oui, il disparut, comme ça, en un clin d'œil. Les épines enfoncées dans la chair de Moiraine ne suivirent pas le même chemin, mais elle s'en ficha comme d'une guigne. L'urgence était de retirer ses vêtements et de les secouer, avec un flux d'air bien entendu. Si les araignées tapies dans le buisson s'étaient dématérialisées avec lui, certaines avaient pu s'accrocher à ses vêtements, voire se glisser dessous. Résistant à l'envie de se déshabiller, Moiraine regarda autour d'elle et repéra une étoile à 6 branches gravée au-dessus de la porte d'une des maisons. Une fois à l'intérieur, elle pourrait fouiller dans ses vêtements. Très calme, elle approcha de la porte, la poussa et avança dans des ténèbres plus noires que la nuit. Par la lumière, où était-elle? Et que fichait-elle habillée comme une fille de la campagne? Et pourquoi saignait-elle comme si elle s'était jetée dans un buisson d'épineux? Elle n'en savait rien. En revanche, elle avait conscience d'avoir réalisé deux tissages sur les sangs qu'on lui demandait. À part ça, elle ignorait tout. Et même le lieu où elle avait réussi son premier exploit. Une seule certitude s'imposait à elle. Son chemin passait par cette maison. Avant de laisser la porte se refermer, elle ne se retourna pas pour jeter un dernier coup d'œil au village fantôme. Devant elle, un chiche rayon de lumière, et rien d'autre. Pourtant, elle aurait juré que les volets n'étaient pas fermés. Cette lueur indiquait-elle la sortie? S'agissait-il d'une fissure dans une porte? Elle aurait pu faire de la lumière, mais il ne lui était pas permis, pour le moment, de puiser dans la source. Bien entendu, elle n'avait pas peur du noir, mais cela la contraignit à marcher très lentement, afin de ne pas se cogner dans un obstacle. Elle n'en rencontra pas durant le quart d'heure où elle marcha, les yeux rivés sur le filet de lumière qui grandit régulièrement jusqu'à ce qu'elle identifie un encadrement de porte. Un quart d'heure à l'intérieur d'une maison dont elle aurait pu faire le tour en 3 minutes. Un endroit très particulier, vraiment. Un rêve, aurait-elle pu croire, si elle n'avait pas su qu'il n'en était rien. Il lui fallut un autre quart d'heure pour atteindre la porte et découvrir un spectacle aussi étonnant que son improbable marche. Un mur de pierre de 15 pieds de hauteur, chacun de ses côtés en mesurant 90, entourait une place au sol pavé. Au-delà, on ne voyait rien, ni bâtiment, ni arbre. Et il n'y avait pas davantage de portail ou de porte. Lorsque Moiraine se retourna, celle qu'elle avait franchie n'était nulle part en vue. Là encore, le masque d'impassibilité ne se lézarda pas. Sous un ciel clair à peine troublé par quelques nuages blancs, l'air printanier charguait une agréable fraîcheur. Malgré ces conditions agréables, cet endroit exsudait l'angoisse. Une grande étoile à 6 branches était gravée au centre de la place. Moiraine en approcha aussi vite que le lui permettait son altière sérénité. Alors qu'elle l'atteignait, une silhouette énorme vêtue d'une armure hérissée de piques se hissa au sommet du mur, puis sauta à l'intérieur du quadrilatère. L'être était aussi grand qu'un ogier. De forme humaine, il n'avait rien d'un homme, dès qu'on le regardait assez longtemps. Avec un museau et des oreilles de loup, un visage humanoïde se révélait d'une laideur que rien ne pouvait égaler. Moiraine avait vu des représentations de Trolloc, mais jamais de monstre en chair et en os. Créature des ténèbres, née de la guerre qui avait mis fin à l'âge des légendes, ses serviteurs du ténébreux vivaient dans la flétrissure, une région corrompue par le mal qui jouxtait les terres frontalières. Moiraine se demanda si elle était dans la flétrissure. Rien qu'à cette idée, son sang se figea dans ses veines. Dans son dos, elle entendit des bruits de bottes et de sabots qui percutaient le sol. Beaucoup de Trolloc avaient des pattes en guise de jambes. Le monstre à tête de loup dégaina l'énorme épée recourbée qui battait son flanc et fondit sur Moiraine. Comme il courait vite. Et d'autres échos indiquaient qu'il n'était pas le seul à attaquer. Des Trolloc à tête de sanglier ou d'aigle sautaient à jet continu dans le quadrilatère. Dès qu'elle eut posé un pied sur l'étoile, Moiraine s'unit au Saïdar et canalisa le pouvoir. Elle commença par le tissage imposé, mais dès que les premiers fils d'air, de terre et d'esprit furent configurés, elle divisa ses flux pour créer un deuxième et un troisième tissage de feu. Il existait une multitude de façons de générer des boules de feu, et elle opta pour la plus simple. En projetant des deux mains, elle en bombarda les Trolloc qui la chargeaient, puis pivota sur elle-même, sans cesser de tisser du feu. Elle dut marquer une très courte pause dans son tissage le plus important, mais tant qu'elle parvenait à être assez rapide, par la lumière, il y avait 10 de Trolloc sur la place avec elle, et d'autres étaient en train de franchir le mur. Toujours des deux mains, Moiraine projeta autant de boules de feu qu'elle pouvait en invoquer. Visant les monstres les plus proches, elle fit des ravages, décapitant une créature à tête de bélier, puis faisant exploser une horreur à pattes et à cornes de chèvre. De la pitié pour des monstres qui dévoraient leurs prisonniers humains? Lorsqu'elle eut fait un tour complet sur elle-même, Moiraine eut à peine le temps de récupérer au vol son tissage principal, qui menaçait de se dissiper. En même temps, elle fit sauter la tête d'un Trolloc à bec d'aigle, et déchiqueta le torse d'un monstre à museau de loup qui réussit presque à poser un pied sur l'étoile avant de s'écrouler. C'était sans espoir. Il y avait trop de monstres. Des renforts leur arrivaient sans cesse, et Moiraine ne pouvait pas se permettre de négliger trop longtemps son tissage principal. Même en pivotant à toute vitesse, elle finirait par le perdre. Pourtant, il devait y avoir un moyen, parce qu'elle ne pouvait pas échouer. La perspective d'être tuée et puis dévorée par des monstres n'entrait pas en ligne de compte. Elle n'échouerait pas. Un point et c'était tout. Soudain, la solution lui apparut. Souriant, Elle commença à fredonner la danse de cour la plus endiablée qu'elle connaissait. C'était une chance, et elle allait la tenter. Les pas rapides lui permirent de parcourir le périmètre de l'étoile sans avoir à perdre de vue le tissage qu'elle devait impérativement achever. Après tout, même si ses pieds bougeaient très vite, qu'y avait-il de plus serein qu'une danse de cour, lorsqu'on l'exécutait avec la même impassibilité gracieuse que dans la salle de bal du Palais du Soleil? Moiraine tissa les 5 pouvoirs à une vitesse incroyable, supérieure à tout ce qu'elle avait jamais fait, c'était une certitude. Curieusement, danser l'aidait beaucoup, et son tissage sophistiqué commença à prendre forme et ressembla à un apron de Mardina. Évoluant telle une ballerine, elle continua à tisser et à semer la mort dans les rangs de Trolloc. Parfois, il parvenait si près d'elle avant de mourir que leur sang lui éclaboussait le visage. En 2 ou 3 occasions, elle fut même obligée d'esquiver leur chute en dansant, afin qu'il ne lui tombe pas dessus. Ignorant le sang et le sifflement des lames à ses oreilles, elle continua à virevolter, parfaitement sereine. Lorsque le dernier fil du tissage majeur fut en place, elle laissa s'évaporer le construct tout entier. Mais il y avait toujours des Trollocs sur la place. D'un pas rapide, Moiraine se campa au centre de l'étoile, où elle décrivit en dansant un très petit cercle, comme si elle était dos à dos avec un partenaire invisible. Maintenir 3 tissages différents l'avait épuisée, pourtant, elle parvint à trouver la force de recommencer. Dansant plus sereinement que jamais, elle continua à bombarder les Trollocs de boules de feu, et fit pleuvoir sur eux la foudre elle-même. Lorsque les explosions cessèrent, plus rien ne bougeait dans le quadrilatère, à part l'infatigable ballerine, qui décrivit encore 3 cercles avant de s'aviser que c'était terminé. S'immobilisant, elle cessa aussi de fredonner. Dans le mur, une arche venait d'apparaître, et au-dessus, quelqu'un avait gravé une étoile à 6 branches. Les sangs glacés, Moiraine contempla ce passage qui la conduirait à l'endroit d'où avaient jailli les Trollocs, dans la flétrissure. Pour y entrer de son plein gré, disait-on, il fallait être fou. Relevant l'ourlet de sa robe, Moiraine traversa néanmoins le charnier, en direction de l'issue qu'elle ne pourrait pas refuser d'emprunter. Elle avait un chemin à suivre, et elle le suivrait.